de Saint-Dominique donnée à la 16 dans sa vie. C'est très bien, gentil.
reste. Pour s'installer dans une église. Pour rester là, à vivre pendant tout le carême. Pour aider la paroisse. Et puis autour de la paroisse, il y avait toujours des quantités de choses qui se greffaient autour. Et vivre pendant presque tout le temps du carême. Quelquefois, c'était les 15 derniers jours. Être entièrement donné à la prédication le matin, tous les matins et tous les soirs, pour les braves gens qui venaient, qui se servaient du temps du carême pour se renouveler. Et il y avait toujours, comme on disait, des retours dans le temps du carême, des conversions. Je crois qu'on doit avoir très fort ce sens-là, même si de fait nous restons sans faire beaucoup de vie apostolique. Que ce soit, si on est prêtre par la prédication, que ce soit dans le silence de notre vie donnée, le grain de blé tombé en terre et qui meurt, pour porter beaucoup de fruits, il faut que nous ayons très fort ce sens du mystère de l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Et que c'est à la suite de l'agneau qui porte l'iniquité du monde que nous devons vivre ce mystère du carême. Jésus qui pendant 40 jours et 40 nuits s'adonne entièrement à la prière. C'est quelque chose de très très grand. Et ceci pour nous en donner l'exemple, pour nous apprendre à prier, et pour nous apprendre à avoir cette vie de prière très très intense vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis de ceux qui ont besoin qu'on les porte parce qu'ils ne savent plus prier ou qu'ils n'ont jamais prié. Mais je crois que c'est ça la note dominante du carême. Se réserver du temps pour la prière et prier plus pour le fait d'habitude. Je sais très bien que vous êtes très prié, que vous n'avez pas beaucoup de temps à vous. Je crois que on ne perd jamais son temps quand on le donne au Seigneur. Les études, quand elles s'inscrivent dans cette grande prière contemplative, dans cette soif de la prière contemplative, portent beaucoup plus de fruits. Parce que tout est beaucoup plus porté par l'amour. C'est cela qu'on doit chercher avant tout. Je ne vous dis pas de passer vos nuits en prière, parce qu'il n'y aurait plus grand-chose. Au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, vous n'arriverez pas jusqu'au bout. Mais essayez d'augmenter le temps de prière, le temps d'oraison, dans la mesure du possible. Il faut continuer de travailler, c'est sûr. Hésiter d'un peu plus de temps à la prière. Le carême doit être, voyez, selon la règle de saint Augustin, c'est pas le temps fort, même de l'arrêt Saint-Benoît, le temps fort de l'année. La retraite et le carême. Et le carême a l'avantage, c'est que ça dure plus longtemps. Et donc, on peut intensifier plus. Et puis, on vit aussi de plus grandes solitudes. C'est le désert. Je crois qu'il est normal que pendant le temps de carême, la vie commune soit allégée. Ou la neige. Ou la récréation. Alors évidemment, si on en a besoin, qu'on ait la simplicité de le dire. On peut toujours aller réciter le chapelet avec un frère pendant le temps du carême, en demandant la permission. Il y a une petite parlotte édifiante. De ce temps pour intensifier le temps de prière et donc le temps de solitude. On doit être, hein, au sens étymologique des moines, monos, faut s'habituer à pouvoir vivre dans cette divine solitude. Encore une fois, il y a des moments où c'est plus difficile, qu'on ait la simplicité de le dire, et qu'on demande à un frère ou père prieur, qui a beaucoup de temps à lui, vous savez, on va le déranger, et lui demander de nous aider, de nous soutenir. Parce que il faut tendre vers cette solitude, il faut s'habituer. Et une solitude qui va rejaillir en vie commune du reste. Mais cette solitude est nécessaire à notre vie. Et je crois que le temps de carême, qui est le temps du désert, il faut se laisser dans cette solitude avec Marie. Vous savez bien ce que Marthe aimait tellement de dire. Comme Marie était le désert de Dieu. Comme Marie doit être notre désert. Le désert de la croix. C'est celui qui remplace celui de Jean-Baptiste. Et le désert de la croix, c'est Marie dans son mystère de compassion. C'est Marie qui nous est donnée. Il nous est donné avec ce mystère de compassion et donc dans cette très grande solitude. Elle doit nous apprendre le désert. Le désert de Dieu parce qu'elle est le lieu de l'adoration. On devient le désert de Dieu quand on adore. Parce qu'on devient une terre sainte quand on adore. Une terre consacrée. Et je crois que c'est cela la grande conversion. Puisque l'écrit, du moins, la liturgie ne cesse de nous rappeler que pendant le temps de carême, c'est le temps de la conversion. Et cette conversion, pour nous, elle doit être dans cette conversion très radicale qui se réalise dans l'adoration. Tourner son cœur vers Dieu, c'est bien ça l'adoration. Et la conversion, c'est tourner son cœur vers Dieu. C'est quitter tout ce qui est secondaire, tout ce qui est distraction, pour orienter notre cœur vers Dieu. Dans la solitude, quelquefois dans la très grande aridité, ça n'a pas d'importance, c'est même bon. C'est rude pour notre cœur humain, c'est rude pour notre sensibilité, mais ça nous fortifie. Parce qu'alors à ce moment-là, on peut dire que c'est uniquement pour lui. Quand il y a des consolations sensibles, on se rattrape un peu. Tandis que quand c'est l'aridité totale, vraiment tout est donné. Et tout est brûlé. Mais cette conversion du cœur, qui doit aller très loin, qui doit approfondir notre cœur, avec une dimension même du cœur de Jésus. Je crois que c'est cet aspect qui est principal. Et qui doit surabonder dans la charité fraternelle. Et si pendant le temps de carême, de fait, il y a moins de récréation, la charité fraternelle doit surabonder. Dans la prière, prier plus les uns pour les autres. Je crois que ça, c'est très important. Et ça fait partie de ce temps de carême qui alors fait une unité beaucoup plus profonde. Quand on prie vraiment les uns pour les autres, on ne peut pas ne pas s'aimer, c'est impossible. On s'aime avec le cœur de Jésus tout de suite. Parce qu'on a beaucoup prié les uns pour les autres. Alors il faut qu'on se sente soutenu et aidé. Parce qu'on a besoin d'être soutenu et aidé. La vie religieuse nous rend très vulnérables. Terriblement sensibles. Vous commencez à vous en apercevoir. Vous en apercevrez de plus en plus. Ça ne veut pas dire parce qu'on est éduqué dans de la ouate. C'est pas ça du tout. On est terriblement sensible parce que on vit tant qu'on le peut en compagnie de Marie et de Jésus. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et la sensibilité de Marie et la sensibilité du Christ n'est rien de plus. C'est pas aller plus loin. Quand on vit dans le monde, il y a des des événements, souvent d'une violence et d'une brutalité plus grande, qui abîment au fond notre sensibilité, qui la durcissent. On est obligé de lutter aujourd'hui.
Bien en parler. Mais
lié à ça. Dieu sonde les reins et les cœurs, et donc ce que Dieu désire voir dans notre cœur, c'est cette très grande liberté intérieure. Et c'est cette assise-là qu'on doit chercher, au fond. C'est la béatitude des cœurs purs. Et la béatitude des cœurs purs, c'est justement voir cette espèce de liberté, mais une très grande intériorité. Mais une liberté dans une très grande intériorité vis-à-vis de l'exercice de la charité fraternelle et vis-à-vis de la contemplation. Ne pas rechercher les consolations. Aimer plus Jésus que nos propres consolations. Aimer plus nos frères que la joie qu'ils peuvent nous donner. Les aimer plus, c'est eux qu'on aime et qu'on aime en toute vérité. Je crois que ça aussi c'est très important. Parfumez-vous la tête. Ça fait partie de l'exigence du carême, ça. C'est très important. Je crois que c'est une charité fraternelle, toute divine, ça. Mais c'est juste l'inverse, dorse mal léché. Parfumez-vous la tête, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à avoir cette qualité de charité fraternelle. Dans le cœur de Marie. Je crois que le parfum, c'est Marie. Le parfum est lié à l'Esprit Saint. Et c'est Marie qui aime ce parfum d'un grand prix. Versé aux pieds de Jésus. C'est le cœur de Marie. C'est sa tendresse, c'est son amour. Et c'est cela qu'elle nous donne, et c'est ça qu'elle veut nous donner. Alors, mais la cesse pour nous, on ne peut pas en faire énormément parce qu'on est tous fragiles. Au moins tous ceux qui sont de la génération des jeunes. On est tous fragiles. C'est un des caractères de la jeunesse aujourd'hui. Mais fragiles parce que désireux d'aimer. Fragile parce que, ayant une qualité de sensibilité très grande, alors évidemment il y a une fragilité. Et cette fragilité demande d'être sanctifiée, transformée du dedans par l'Esprit Saint. Et c'est ça le parfum. Et dans la vie commune, quand on a un frère qui nous sourit, qui est présent, même dans le silence. Quelquefois les présences sont encore beaucoup plus fortes. Il ne s'agit pas de pour être plaisant à ses frères, rompre constamment le silence, non, ce serait contraire à l'ascèse que nous devons maintenir. Mais cette ascèse est au service de la charité fraternelle. Il faut qu'elle soit au service de la charité fraternelle. Que cette ascèse soit elle aussi apostolique, c'est-à-dire une ascèse parce que entre ce que nous vivons maintenant et le retour du Christ, il faut que ce soit brûlé par le temps de nous-mêmes. Et ce sont nous-mêmes qui doivent dépasser tout ce qu'il peut y avoir de vieillot pour nous rajeunir divinement. Je crois que ce sont les caractères très saints du carême, tels que l'Église nous demande de le vivre, tels que nous devons le vivre à Saint-Jean, tels que Saint-Dominique l'a vécu. Vous devez toujours vous rappeler petit-fils de Saint-Dominique, on va l'oublier. Et alors, petit-fils de Saint-Dominique, c'est-à-dire ressembler à ce qu'il y a de plus secret dans la vie dominique. Avec les petites sœurs de Bethléem, désirer très proche du cœur de Saint Bruno. aux anneaux de leur conflit discret. Il n'a pas encore confié au Chartreux. Autant, il en a confié au Chartreux. Mon plaisir, je ne t'y peux passer devant, ce serait très malhonnête vis-à-vis des Chartreux qui sont vénérables. Qui dans l'église, c'est l'ordre le plus vénérable qui soit. Hein. Vous savez bien, selon l'ancien droit canon, on pouvait toujours entrer chez les Chartreux, mais les Chartreux vous refusaient aussi. Mais le droit canon le permettait. À partir d'un certain âge, les Chartreux disaient non. Vous ne pourrez plus vous adapter, alors ils refusaient. À partir de 40 ans, les Chartreux refusent. Ceux qui veulent entrer chez les Chartreux, vite, avant 40 ans. Mais faites attention, il y en a 1% qui reste. Après, c'était la moyenne avant, hein, 1%. Maintenant, peut-être un peu plus. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être un peu plus. Mais découvrir dans le cœur de Saint Bruno quelque chose de plus intime. Ce que Saint Bruno vit avec Marie. Alors, je ne dis pas que c'est la même chose pour vous par rapport à Saint Dominique. Mais il y a dit quelque chose comme ça. Hein. Alors, vive ce que Saint Dominique vit avec le mystère de Marie. C'est peut-être ce secret-là que vous devez demander à Saint Dominique. À Saint-Jean. Ça, on ne fait pas de rivalité au rapport de Dominique. Et on est sûr de vivre ce qu'il y a de plus intime dans le cœur de Saint-Dominique. Il y a une parenté très grande entre Saint-Dominique et Saint-Jean. Moi, personnellement, je trouve une parenté très grande. Vous voyez, la perspicacité de l'intelligence. La pureté du cœur et la jeunesse. La jeunesse du cœur, c'est bien les trois grandes qualités de Saint Dominique. La perspicacité de l'intelligence, il aimait l'Évangile. Il aimait follement. Il était intelligent parce qu'il était espagnol. Alors il était intelligent. Il allait loin, loin dans la recherche de la vérité. L'Espagnol venu en France, c'est vraiment les deux qualités des deux pays. C'est la grande astuce. Il avait sûrement chez lui une très grande perspicacité de l'intelligence. Et je crois qu'il faut qu'on ait ça. Cette perspicacité de l'intelligence dans nos études. C'est pour ça que pendant le carême, il faut une recherche plus intense au point de vue de la vérité. La pureté du cœur, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Puis la jeunesse. Ne jamais être blasé. C'est ça qui... Garder la faculté d'admiration. C'est ça la jeunesse. C'est garder la faculté d'admiration. Et au XIIe siècle, les Victorins souligner, et saint Thomas l'a repris, que l'admiration, c'était ce qui conduisait à la contemplation. Et qu'il fallait avoir une capacité d'admiration pour pouvoir contempler. Si on n'admirait plus, on ne peut pas. Notre monde d'aujourd'hui est blasé. Il est terriblement blasé. Il n'a plus du tout de faculté d'admiration. C'est pour ça qu'il ne contemple plus. C'est un petit vieux. Il n'y a plus de capacité d'admiration. On a tout vu. Savez, quand quelqu'un de 18 ans vous dit j'ai tout vu, j'ai tout fait. Donc, pour le restant de sa vie, ça va être une répétition. Donc, ça va être très fatigant. Il n'y aura plus rien d'original. Tandis que si vous pousser en allant toujours plus loin, dans le désir de, d'entrer toujours plus avant dans la vérité et dans un amour plus intime, alors c'est toujours nouveau. Toujours nouveau, la parole de Dieu. C'est toujours nouveau. Ça maintient une faculté merveilleuse à l'admiration. Rien de blasé. Dieu n'a pas de rides. Et ça, c'est...
Si l'esprit de celui qui a tout pouvoir descend sur vous,
ne vous éloignez pas de votre place, c'est-à-dire de cette épreuve qu'il vous envoie. La guérison, ajoute-t-il, fera cesser de très grands péchés et coupera même vos habitudes mauvaises qui sont la racine de vos péchés et de vos imperfections. Car les combats contre les épreuves, les angoisses et les tribulations éteignent les habitudes mauvaises et imparfaites de l'âme. Il les purifie et les fortifie. Ainsi, l'âme doit-elle avoir une très haute estime des souffrances intérieures et extérieures qu'il lui envoie. Elle comprendra qu'ils sont bien peu de choses, ceux qui méritent d'être purifiés par les souffrances et qui par là arrivent à ce haut état dont nous parlons. Mais l'estime que Saint Jean a des épreuves intérieures, des aridités de tout ce qui nous égorge un peu. C'est vrai qu'humainement parlant, c'est pas drôle. Mais il faut dire que divinement, c'est une conduite royale de Dieu. Parce que Dieu nous traite d'une façon magnanime. Revenons maintenant à l'explication de notre vers. L'âme reconnaît donc que tout a été pour son bien. Et que si elle a été dans les ténèbres, elle est désormais dans la pleine lumière. C'est que ténébré eius, ita et lumen eius. Si elle a été plongée dans les tribulations, elle a maintenant sa part des consolations et du royaume. Elle est surabondamment dédommagée de ses souffrances intérieures et extérieures par les biens divins qui lui sont accordés ainsi qu'à son corps. Il n'est aucune de ces épreuves qui n'ait reçu un salaire particulier du plus haut. Aussi déclare-t-elle combien elle est satisfaite quand elle dit « Et vous payez toute dette ». Elle rend grâce à Dieu dans ce vers, comme le faisait David dans l'un de ses psaumes, après avoir été délivré de ses épreuves. Quelles ont été nombreuses et amères les tribulations que vous m'avez infligées. Mais vous m'en avez complètement délivré. Vous m'avez retiré des abîmes de la terre. Vous avez déployé toute votre magnificence. Et vous tournant vers moi, vous m'avez inondé de consolation. Cette âme, avant d'être élevée à cet état, se trouvait donc à la porte du palais de Dieu, comme Mardoché à la porte du palais d'Assurus. Ce personnage qui gémissait sur les places publiques de Suse, à la vue des dangers auxquels sa vie était exposée, qui était revêtu d'un cilice, qui refusait les vêtements envoyés par la reine Esther, qui enfin n'avait pas reçu la plus petite récompense pour les services qu'il avait rendus au roi et la fidélité avec laquelle il avait défendu son honneur et sa vie, vit en un jour son sort complètement transformé. Ainsi en est-il de l'âme. Mais alors, quel sens mystique au menu d'écriture. Oui, Assuérus, c'est l'âme. Il faut se demander ce que ça représente. C'est là, on voit la familiarité avec l'écriture d'un saint Jean de la Croix, d'une grande sainte Thérèse, d'un saint Thomas. Ainsi en est-il de l'âme, cette grande comparaison. Un Suérus qui attend à la porte du palais. Dites-vous de temps en temps que vous êtes un Suérus. En un jour, elle reçoit la récompense de tous ses travaux et de tous ses services. Non seulement on la fait entrer dans l'intérieur du palais du roi, et on la lui présente revêtue d'habits royaux, mais encore, on met un diadème sur sa tête, un sceptre à sa main. La voilà enfin assise sur un trône royal, elle porte au doigt l'anneau du roi, et elle le devoir de faire tout ce qu'il voudra, comme aussi celui de ne pas faire ce qui lui déplaît dans le royaume de son époux. Car ceux qui arrivent à cet état obtiennent tout ce qu'ils désirent. Ainsi, donc, non seulement l'âme est bien payée de ses travaux, mais elle voit la destruction de ses ennemis, les Juifs, c'est-à-dire de ses tendances imparfaites qui cherchaient à la priver de la vie spirituelle dont sont maintenant inondées ses puissances et ses tendances. Voilà pourquoi elle ajoute aussitôt qui donne à la mort et change la mort en vie. Comme la mort n'est autre chose que la privation de la vie, dès que la vie reparaît, il n'y a plus trace de mort. Or, au point de vue spirituel, il y a deux sortes de vie. Il y a la vie béatifique, qui consiste à voir Dieu. Or, on n'y parvient que par la mort corporelle et naturelle, selon cette parole de saint Paul. Nous savons que si notre maison d'argile vient à se dissoudre, nous possédons une demeure divine dans les cieux. L'autre vie est la vie spirituelle dans sa perfection. Elle consiste à posséder Dieu par l'union d'âme. On l'obtient en mortifiant tous les vices, toutes les tendances et la nature elle-même d'une façon complète. Tant que ce travail n'est pas terminé, il est impossible d'arriver à la perfection de cette vie spirituelle ou d'union avec Dieu, comme l'apôtre nous le déclare en ces termes. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, à l'aide de l'esprit, vous mortifiez les œuvres de la chair, vous vivrez. Ces paroles nous montrent que ce que l'âme désigne ici sous le nom de mort n'est autre chose que tout le vieil homme ou le mauvais usage qui est fait des puissances, c'est-à-dire de la mémoire, de l'intelligence, de la volonté, quand on les applique aux choses du siècle ou que l'on met son plaisir et sa satisfaction dans la créature. Cela comprend les œuvres du vieil homme, mais une pareille vie est une mort pour la nouvelle vie ou la vie spirituelle, et celle-ci ne peut être parfaite si l'âme n'est pas complètement morte au vieil homme. C'est ce que l'apôtre enseigne en ces termes: dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau qui a été créé par Dieu Tout-Puissant dans la justice et la sainteté. Cette vie nouvelle commence au moment où l'âme est arrivée à cette union parfaite avec Dieu dont nous parlons. Il faut que toutes ces tendances, puissances, affections et opérations, qui par elles-mêmes ne produisent que la mort et la privation de toute vie spirituelle, soient devenues divines. Tout être vivant, nous disent les philosophes, vit par ses opérations. Or, l'âme a ses opérations en Dieu à cause de son union avec lui. Elle vit donc de la vie de Dieu, et ainsi sa mort s'est changée en vie et sa vie animale en vie spirituelle. Avant cette union, l'entendement comprenait les choses d'une manière naturelle, à l'aide de la force et de la vigueur naturelle, de la vie des sens corporels. Il agit désormais et il est secondé par un autre principe, beaucoup plus élevé, celui de la lumière de Dieu, sans avoir besoin des sens du corps. De la sorte, il s'est changé en divin, et par suite de l'union, il ne fait plus qu'un avec l'entendement de Dieu. La volonté qui précédemment est élimée d'une manière basse et dépourvue de vigueur n'avait que des manifestations naturelles. Maintenant, elle vit de l'amour divin, son amour élevé à des affections divines. Elle est animée de la force
avec Dieu et ne songe plus qu'aux années éternelles dont parle David. Quant aux tendances naturelles, elles n'avaient d'aptitude et de force que pour jouir de la créature qui donne la mort. Mais maintenant qu'elles sont changées, elles trouvent leur goût et leur délice dans le divin. Leur action comme leur satisfaction procède d'un autre principe qui leur communique une vie plus haute et sont les délices mêmes de Dieu, car elles lui sont unies. Aussi, ces tendances sont toutes divines. Enfin, tous les mouvements, toutes les opérations et inclinations que l'âme tenait précédemment du principe et de la source de sa vie naturelle sont par le fait de son union avec Dieu changées en acte divin. Après être morts à ce qu'il y avait de naturel en eux, ils sont vivants en Dieu. L'âme, en tant que vraie fille de Dieu, est guidé maintenant par l'Esprit Saint, comme l'enseigne Saint Paul. En ces termes, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ainsi donc, après ce qui a été dit, l'entendement de cette âme et l'entendement de Dieu, sa volonté et la volonté de Dieu, sa mémoire et la mémoire éternelle de Dieu, ses délices sont les délices de Dieu. Sa substance n'est pas la substance de Dieu, parce qu'elle ne peut pas se transformer substantiellement en lui. Néanmoins, dès lors qu'elle lui est unie et qu'elle est absorbée en lui, elle est Dieu par participation. Voilà ce qui s'accomplit dans cet état parfait de la vie spirituelle, bien que ce ne soit pas au même point que dans l'autre vie. De la sorte, l'âme est morte à tout ce qu'elle était par elle-même, ce qui était d'ailleurs une mort pour elle, et elle vit maintenant de la vie de Dieu en elle. Aussi était-ce à juste titre que, parlant d'elle-même dans le vers suivant, elle s'écrie: vous donnez la mort et vous changez la mort en vie. C'est bien cette transformation que Saint Jean de la Croix essaie de nous décrire, de l'âme transformée par la grâce habituelle. C'est l'habitation de Dieu en nous. C'est cette transfiguration, cette mort à nous-mêmes. Oui, au fond, c'est là la cèse. C'est là toute ascèse, c'est toute mortification, c'est de mourir à soi-même, mourir à sa propre volonté, mourir à ses propres inclinations, pour vivre de l'amour divin, pour vivre de l'action de l'Esprit Saint, et à s'habituer le plus qu'on peut à vivre dans cette dépendance étroite de l'Esprit Saint. Alors l'âme s'ouvre au mystère même de Dieu. Vous donnez la mort et vous changez la mort en vie. Voilà pourquoi l'âme peut très bien s'appliquer ici la parole de Saint Paul: je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ainsi, ce qui était la mort de cette âme se trouve changé en vie de Dieu. Et cette autre parole du même apôtre lui convient également: la mort est absorbée dans la victoire. Il faut en dire autant de celle du prophète Osée, qui dit au nom du Seigneur lui-même: ô mort, je serai ta mort. Voici la signification de ces paroles: moi, je suis la vie, je suis une mort pour la mort, et la mort est absorbée dans la vie. De la sorte, l'âme est absorbée dans la vie divine. Elle devient étrangère à tout ce qui est de ce monde ou temporel, comme à ses tendances naturelles. Elle est introduite dans les appartements secrets du roi. là, et se réjouit et tressaille d'allégresse dans son bien-aimé, et trouvant le lait qui coule de ses mamelles supérieures, de sa mamelle supérieure au vin le plus exquis, elle s'écrie : si je suis noire, néanmoins je suis belle, ô fille de Jérusalem, car ma noirceur s'est transformée en la beauté du roi des cieux. Dans cet état de vie parfaite, l'âme ne cesse d'être comme en fait intérieurement et extérieurement. De plus, son esprit, qui est pénétré de la connaissance de cet heureux état, goûte presque constamment une telle jubilation divine qu'elle chante un cantique, pour ainsi dire toujours nouveau, rempli d'allégresse et d'amour. Quand parfois elle est enivrée de joie et de délices, elle chante dans son esprit ces paroles de Job : ma gloire se renouvellera sans cesse, et comme le palmier, je multiplierai mes jours. C'est comme si elle disait : Dieu, qui en soi demeure toujours le même et renouvelle toute chose, comme dit le sage, se trouvant toujours uni à moi dans ma gloire, renouvellera toujours ma gloire. En d'autres termes, il ne la laissera pas vieillir ni retourner à son état précédent. Je multiplierai mes jours comme le palmier, c'est-à-dire je multiplierai mes mérites qui monteront vers le ciel comme le palmier qui dirige ses branches. Les mérites de l'âme en cet état sont généralement très grands. Par le nombre et la qualité, elle fait habituellement monter de son esprit vers Dieu tout ce que David exprime dans le psaume 29, qui commence par ces mots : je vous louerai, Seigneur, parce que vous m'avez accueilli. Mais en particulier, les deux derniers versets : que voici, vous avez changé mon chagrin en délice. Et après avoir déchiré le sac sous lequel je pleurais, vous m'avez fait un vêtement de joie, afin que ma gloire vous chante et que je ne sois plus dans les larmes. Seigneur mon Dieu, c'est éternellement que je célébrerai vos louanges. Il ne faut pas nous étonner si l'âme revient à tout instant sur ces paroles de joie, de jubilation, de jouissance, de louange qu'elle adresse à Dieu. Elle connaît avec évidence les grâces qu'elle en a reçues. Elle le voit, en outre, tout appliqué à la réjouir par des paroles éminemment précieuses, délicates et pressantes, à l'enrichir de faveurs toujours nouvelles. Il lui semble même que Dieu n'a pas d'autre âme en ce monde à qui il puisse procurer ses délices, qu'il n'a pas autre chose à faire et qu'il se donne tout entier à elle seule. Telle est l'impression qu'elle ressent. Aussi, elle la confesse hautement et elle chante comme l'épouse des cantiques : mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Voyez le sens, là encore, du cantique des cantiques. Je crois que c'est bien ce mystère de l'unité de vie avec Jésus. Le saint Jean de la Croix proclame : ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et tout mystère de l'Eucharistie